Bonjour à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices pour l'émission Mai de Résistance, l'émission de tous les résistants au passé, au présent et, je l'espère bien, encore et toujours au futur. Aujourd'hui, une nouvelle édition de l'émission avec Salem. Salem qui est d'origine iranienne et qui est kurde. D'abord kurde peut-être et ensuite iranien. N'est-ce pas Salem ?
Oui, je suis pas nationaliste, mais je suis patriotique. Je défends la cause kurde depuis maintenant, ça fait des années, 35 ans à peu près. Donc, nous sommes kurdes, oui, on revendique notre identité, notre culture. Et il va falloir que la communauté internationale essaye de nous entendre malgré les intérêts.
Voilà.
Les grandes puissances.
Donc je précise que Salem vient, est effectivement kurde, mais il est kurde iranien. Il n'est pas anodin de le préciser. Pour nos auditeurs qui ont envie d'aller voir sur les podcasts de l'émission Radio Galère, vous avez Ahmed Résistance sous le nom animateur Noura. D'autres émissions sur le Kurdistan, on avait fait une émission avec Aydin, qui est d'origine turque, lui, et qui fait partie du PKK. Salem, tu nous en parles un petit peu du PKK pour bien nous expliquer la différence entre tes positions à toi, qui est kurde d'Iran, et celle de la personne qui était venue, de Aydin, qui était venue faire une émission avec moi il y a 2 ou 3 mois.
Oui, la différence, on va dire différence idéologique peut-être. Oui, il y a différence idéologique, mais la revendication, on se rejoint sur la revendication de
à
la cause kurde.
À l'autonomie et la reconnaissance kurde, de la culture.
La reconnaissance de la culture, de la langue kurde, de l'existence kurde. Sur ce point-là, on se rejoint. Après, on a des divergences au niveau idéologique. PKK, c'est un mouvement qui a été créé dans les années 80, en 1984 donc, qui a pour chef Abdullah Öcalan, avec d'autres membres importants qui ont été membres fondateurs du parti, qui n'existent pas aujourd'hui. Ils ont été tous assassinés ou se sont suicidés en prison sous la torture.
Mm-hmm. Abdullah Öcalan lui-même est encore en prison actuellement.
Oui, Abdullah Öcalan aujourd'hui purge une peine à perpétuité.
En Turquie.
En Turquie, mm-hmm. Sur une île qui s'appelle Ermara ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Donc là, il est en prison, isolé complètement.
D'accord. Alors, c'est vrai qu'on entend souvent, j'en parle parce qu'on a souvent une image un petit peu faussée des problématiques liées autour de la question des Kurdistan, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du PKK, qui est quand même très actif actuellement en France. Et comme l'explique Salem, le PKK n'est pas le seul mouvement politique activiste à revendiquer une autonomie et à prendre une part active dans l'agora politique au sein du Moyen-Orient et dans les autres pays du monde entier où il essaye d'exporter son problème pour que tout le monde sache ce qui s'y passe. Parce que, par exemple, Salem, tu me disais, effectivement, le PKK en Turquie est né dans les années 80 et il représente juste un groupe kurde qui est celui des Turcs. Mais toi, depuis les années 60... Tu appartiens à une autre mouvance politique iranienne, celle-ci, celle du Komala, un parti politique qui a été créé bien avant le PKK, dans les années à la fin des années 60, et qui déjà à l'époque a été revendiqué une certaine, il avait une certaine reconnaissance de la culture kurde ainsi que des droits spécifiques aux Kurdes.
Oui, le Komala est un mouvement gauchiste, donc, qui, dès sa création en 1968, pardon, s'est distingué de système politique soviétique. Il n'a jamais voulu avoir des liaisons avec ce système politique soviétique, mais de gauche. Ensuite, il y a eu la révolution en Iran, révolution 1979.
Donc on rappelle un petit peu rapidement ce qui s'est passé. Le Shah d'Iran, qui était étroitement épaulé par les États-Unis et notamment par les services secrets américains, est renversé.
Oui. Oui, bien sûr, le Shah d'Iran était protégé par les Américains.
Il était protégé par les Américains.
Par les Américains et il est coupé le micro. Et donc il a été chassé en 79 et
il a été chassé en 1979. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Parce que voilà, justement, là, on en parlait tout à l'heure, et c'est une question très 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 intéressante. C'est que là encore, en Occident, on a souvent une opinion relativement tronquée des choses, parce que on lit uniquement une certaine presse qui est de chez nous, et on regarde souvent pas plus loin que le bout de notre nez. Mais il y a beaucoup de gens qui s'imaginent, Salem, là, tu vas nous éclairer là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que la révolution iranienne, c'est une révolution de musulmans. Ce qui est faux, puisque le parti politique auquel tu appartenais, et auquel tu appartiens certainement toujours, ce fameux...
Komala.
Voilà, Komala. Ce parti politique-là, c'est un parti de gauche, c'est-à-dire c'est un parti d'international, finalement, qui prône une certaine fraternité des peuples au-delà des frontières et surtout une politique économique de gauche, avec un partage des richesses.
Oui, bien sûr. Excusez-moi, tout à l'heure, j'étais perturbé par l'histoire de micro. Oui, Komala est un parti marxiste, mais anti-système soviétique, c'est-à-dire pas totalitaire. Nous sommes un parti progressiste. Donc, dès le départ, nous avons essayé de discuter avec les différents partis politiques, différents courants en Iran, avant et pendant la révolution, pour essayer de traiter le problème kurde. La révolution en Iran, oui, c'est pas les islamistes qui l'ont fait, c'est la jeunesse communiste.
C'est très important de le signaler parce que dans nos imaginaires à nous, surtout notre génération, la génération des gens qui ont à peu près 40 ans aujourd'hui, on voit tous l'image de l'imam Khomeini. Et pour nous, c'est ça la révolution iranienne, alors qu'au départ, c'est pas ça.
Non, en fait, ce qui s'est passé, ça s'est passé exactement comme les printemps arabes, ce qu'on appelle printemps arabe. Dans chaque pays où on a renversé les régimes, il y a eu les mouvements islamistes qui sont imposés, qui sont par la suite devenus majoritaires. En Iran, ce qui s'est passé aussi en 79.
Il y a eu des alliances politiques.
Il y a eu des négociations, des alliances. Ils ont essayé de faire des alliances politiques. Pour rétablir les droits, pour constituer la nouvelle constitution en Iran. Et les islamistes étaient très, très, très malins. Donc, ils ont manipulé tout le monde. Et ils ont été d'accord au départ. Et par la suite, petit à petit, ils ont changé le fusil d'épaule. Et ils ont séquestré beaucoup de responsables politiques. Massacrer, torturer, tuer même beaucoup de responsables, des militants. Donc, ils se sont imposés. Et par la suite, il y a eu malheureusement la guerre Irak-Iran.
Donc Saddam Hussein attaque l'Iran.
Saddam Hussein attaque l'Iran au bout de quelques mois après la révolution, mm-hmm. au moment où l'Iran était affaibli.
Ce avec, qui a beaucoup aidé donc les...
Voilà, les mm-hmm. islamistes de prendre le pouvoir parce que le peuple iranien s'est dit d'abord il faut défendre les frontières face à envahisseurs, Saddam Hussein qui est soutenu mm-hmm. par l'Occident, par les Américains, par la France, l'Angleterre, par l'Arabie Saoudite, etc. Et donc, voilà, ça a laissé le champ libre aux islamistes. Et c'est ainsi qu'ils sont installés et petit à petit, ils se sont débarrassés des mouvements politiques lesquels ont fait la révolution et ont chassé le Shah d'Iran.
Alors, si on regarde bien, les Kurdes, que ce soit les Kurdes d'Iran ou les Kurdes d'ailleurs, mais surtout en Iran et en Irak, ils n'ont vraiment pas eu de chance parce que il y a eu l'époque de l'Empire Mède, où effectivement c'était les populations mèdes, dites mèdes, donc de Kurdes, qui disposaient d'un territoire immense et qui avaient développé leur civilisation. Et puis après, comme tu me l'as expliqué, plusieurs invasions, c'est des Perses, celles des Arabes, et puis de la Turquie, venant de la Turquie aussi. Et donc déjà, c'est un peuple qui est déjà opprimé. Mais en plus, à cette époque-là, dans les années 1980, à la fin des années 70, là, ça se précipite. Sous le Shah d'Iran, donc avant la révolution islamique, le Shah d'Iran persécutait les Kurdes, aidé par les Américains. Il suivait la politique américaine. Et puis après, il y a la révolution, donc une toute petite période qui a duré pas longtemps du tout, où des vraies idées du peuple, des vraies idées révolutionnaires prennent le dessus. Là, je suppose que c'était un petit peu dans la lignée du non-alignement de Bandung en 55. Derrière, il devait y avoir les castristes, et puis la Russie, l'ex-URSS, et d'autres, et j'en passe, des chantres, des leaders du non-alignement. Et puis, ça n'a vraiment pas duré longtemps. Là, c'est ce que tu me disais. À cette époque-là, vous, les Kurdes iraniens, avez commencé à pouvoir vous organiser en tant que peuple libre, revendiquant une certaine autonomie et mettant en valeur sa culture au sein de son pays.
Oui, bien sûr, mais là, tu me demandes de parler un peu de l'histoire. Et comme je ne suis pas historien, je vais avertir que je vais être à peu près approximatif. Par rapport à des dates, mais le peuple kurde n'est pas tombé du ciel par hasard, il n'est pas venu comme extraterrestre ces derniers jours. Le peuple kurde, son histoire remonte à 12 000 ans à peu près, il y a des traces jusqu'à 12 000 ans, enfin les traces si on veut bien reconnaître que ce peuple-là a des origines et existe. Mais d'après les historiens, l'origine des Kurdes remonte à loin.
Il y a des traces, il y a 12 000 ans. Déjà, on sait que déjà au moins 6 000 ans avant Jésus-Christ, à l'époque d'Akhenaton, les Égyptiens appelaient à l'époque ces territoires-là le royaume de Mitanni.
Oui, c'est ça.
C'était le royaume du soleil levant, c'est ça ?
Voilà, ça fait référence un peu à l'histoire de cette religion yazidi. Aujourd'hui, on appelle mm-hmm. les yazidis qui sont maltraités par les islamistes de Daesh. Le yazidisme naît il y a 7000 ans environ, à peu près. Et donc, la croyance, c'est au soleil, au feu. Pour le yazidisme, Dieu, c'est le soleil, c'est le protecteur, c'est le créateur de la vie sur Terre. Donc, voilà pour l'histoire de Yézidis.
Le soleil qui se lève chez vous en Iran, c'est ça ?
Oui, voilà. Le soleil. Donc, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au mouvement kurde en Iran et pendant le régime de Shah, oui, à l'époque, il y avait beaucoup de prisonniers politiques. Les prisons d'Iran, elles étaient remplies des Kurdes, des militants de la cause kurde. Parce que depuis un siècle, même plus d'un siècle, un siècle et demi, qu'il y a des mouvements qui essayent de faire entendre les revendications Mais malheureusement, à chaque fois, ça finit par des drames, par des arrestations, des massacres.
Et là, entre le départ du Shah d'Iran et le moment où les islamistes prennent résolument le pouvoir sur les révolutionnaires de gauche, et ça fait combien de temps à peu près de...
Oui,
donc, vous avez pu souffler
1979, révolution, Khomeini arrive en Iran, les islamistes prennent le pouvoir, et la partie Kurdistan, les mouvements politiques essaient de négocier avec le nouveau pouvoir pour faire entendre les revendications du peuple kurde. Donc Khomeini... essaie de faire croire qu'il est d'accord, qu'il va accorder l'autonomie aux régions kurdes. Il fait semblant de négocier, mais à chaque fois, il retarde les négociations. En fait, lui, son projet, c'est constituer l'armée à sa faveur, avec l'appui des gardiens de la révolution, les Pasdaran. Les barbus qui ont massacré, qui ont commis des actes complètement pareils, similaires, exactement comme ce qu'il fait aujourd'hui Daesh. Ils ont coupé les têtes, ils ont fait pareil. Ils ont terrorisé le peuple kurde, ils ont bombardé les villes, ils ont mis à feu, à sang, des grandes villes kurdes. Donc nous, on a été obligés de quitter les villes, de se dispatcher dans les montagnes, pour épargner la population des bombardements. Il y avait une ville kurde qui s'appelle Sena Sanandaj, qui pendant 26 jours, non-stop, tous les jours, a été bombardée par l'aviation iranienne. Et il y avait beaucoup de quartiers qui ont été complètement détruits, rasés. Donc voilà dans quelles conditions le peuple kurde vit au Moyen-Orient. Et à chaque fois qu'il y a des changements de régime ou des coups d'État, par exemple en Turquie, c'est le premier visé, c'est le peuple kurde. C'est
oui, comme en ce moment en Turquie.
Voilà. En ce moment,
que ce soit en Turquie, en Syrie ou ailleurs, quoi qu'il arrive.
En Turquie, on massacre les Kurdes, mais personne n'en parle. Ce qui se passe en Syrie, dans les villes comme Alep, Hama, tout ça, il se passe dans les villes kurdes aussi, mais on n'en parle pas. L'aviation turque rase des villages, détruit des villes. Il y a une grande ville au Kurdistan de Turquie qui s'appelle Diyarbakir. Le cœur historique de la ville a été complètement détruite, rasée. Et c'est en plus classé à l'UNESCO, patrimoine de l'humanité. Oui. Donc tout ça, c'est pas normal. C'est,
comme on dit, il y a une certaine presse qui tout cache des choses. Quoi.
Voilà, c'est certaines presses qui, à la demande des gouvernements, soi-disant on est dans les pays des droits de l'homme, et on essaie de museler la presse quand même. Quoi. C'est à la demande de la Turquie, en échange d'empêcher les immigrés de venir vers l'Europe. À chaque fois, on sert de monnaie d'échange.
C'est l'impression qu'on a.
Voilà.
Oui.
Le peuple kurde sert toujours de monnaie d'échange. Les soviétiques, ils ont fait pareil dans les années après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont vendu le peuple kurde, soi-disant, au départ, ils les soutenaient, ils les encourageaient à se manifester pour réclamer leurs droits. Mais par la suite, ils nous ont vendus aux Turcs et aux Iraniens. Quand je dis Turc-Iranien, je parle des régimes, des gouvernements, bien sûr.
Oui,
je ne parle pas de population.
Oui, on l'a bien compris. Peut-être qu'on pourrait faire une petite pause musicale pour détendre l'atmosphère. Et on continuera tout à l'heure à expliquer ce qui s'est passé au Kurdistan iranien. J'ai proposé une chanson qui s'appelle... C'est une chanson d'un chanteur qui s'appelle Sivan Perver. Et la chanson s'appelle Peshmerga. Qu'est-ce que ça signifie exactement, Peshmerga? On en parle beaucoup. Je crois qu'il y a Bernard-Henri Lévy qui a sorti un livre qui s'appelait comme ça il n'y a pas très longtemps. C'est un nom d'actualité chez nous, enfin ici.
Oui, mais malheureusement pas pour nous. Peshmerga, ça veut dire que c'est celui qui va au-devant de la mort.
D'accord.
Pour désigner un combattant, on dit Peshmerga, c'est lui qui va au front, qui sacrifie sa vie et qui...
Le combattant. Voilà.
C'est comme le résistant.
El Moudjahidine
en arabe.
D'accord.
Ouais. Mais bon, si, c'est pas les mêmes, il y a pas les mêmes connotations. Mujahideen, c'est quelque chose de religieux.
Alors qu'au Peshmerga, ça n'a rien à voir. Il y a le mot djihad dedans. Oui. Alors que vous, je le rappelle, chez les, au Kurdistan, encore faudrait-il redéfinir djihad et lui donner une vocation pacifique. Je pense que c'est sa vraie, que la vraie définition du terme est pacifique et non pas belliqueuse. C'est que c'est une mauvaise interprétation que de penser que c'est dans la violence.
Il y a les deux définitions de djihad. Voilà. Mais bon, c'est pas D'accord. le sujet.
Mais non, mais c'est juste pour le dire que. Peshmerga, c'est laïque, bien sûr, et je le rappelle encore parce qu'il y a toujours. C'est comme quand les gens qui confondent oui. les Arabes et les Perses. Il y a. Au Kurdistan, on n'est pas. On est très laïque. On oui, en parlera tout à l'heure.
Les Kurdes, ils ont jamais confondu leur cause avec la religion.
Voilà, tout à fait. Donc Peshmerga, c'est vraiment combattant au sens du je défends les miens. Voilà.
Thank you.
Voilà. Cher Salem, voilà. Nous, alors la chanson qu'on a passée, en fait, on n'a pas mis la bonne. C'était pas Peshmerga, ça sera pour une autre fois. Mais c'était le chanteur Siwan Ako, qui est un chanteur très connu, qui est kurde de Turquie. Il a chanté en kurde. Et ce qu'on a retransmis, c'est un concert où il y avait au moins 3000 personnes, quoi. Voilà, une foule en liesse. Et j'ai remarqué que chez les Kurdes, que ce soit d'Iran, de Syrie, de Turquie ou d'Irak, c'est des gens qui aimaient beaucoup faire la fête.
Ah oui, oui. Pour nous, malgré notre malheur, la fête, danser, chanter, tout ça, c'est quelque chose de vital.
Il y a des chanteurs clés qui reviennent, qui sont un petit peu porteurs du flambeau de la revendication kurde d'Iran.
Oui, bien sûr. Il y a des chanteurs militants qui sont là, heureusement, et qui font vivre la culture kurde aussi. La culture kurde s'est transmise par les récits poétiques ou par la chanson. Hein. C'est depuis des siècles et des siècles.
Ainsi que des chansons ou des contes épiques qui racontent...
Bien sûr. Mmh. Oui.
Qui raconte une bataille pour la vie, en fait. Hein. C'est comme tous les peuples.
Oui. Oui.
Alors, le Grand Kurdistan, c'est un petit peu le rêve de tous les Kurdes. Et on va en parler tout à l'heure, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont envie qu'on en parle. Et il y a plein de choses à dire autour de ça. J'aimerais quand même en revenir à la question kurde-iranienne, puisque toi, Salem, tu viens de ce pays-là, alors on en profite. C'est pas souvent qu'on a l'occasion de parler avec des gens qui viennent de là-bas, et surtout qui y ont vécu, comme toi, puisque comme tu me l'as expliqué, tu as été, en quelque sorte, exilé de ton pays. Tu es exilé politique.
Oui, moi j'étais... Maintenant, j'ai la nationalité française, mais je suis venu ici en tant que réfugié politique. Et
en tant que membre actif du parti Komala.
Je ne suis pas venu ici par la voie migratoire, comme c'est le cas pour beaucoup de gens. Moi, je suis de la France, est venu me chercher là-bas, sur place, en prison. J'étais dans les camps, en prison. Donc j'étais dans la guerre, j'ai vécu vraiment des choses très très dures. Et quand le mouvement des Kurdes iraniens qui étaient obligés de partir, de quitter la région parce qu'on était sous l'artillerie lourde, l'aviation, et puis pour éviter que notre peuple... subissent les conséquences à cause de notre présence. On a été obligé de partir, de traverser les frontières, d'arriver en Irak. Et voilà, et donc en Irak, pour certaines, on a été maltraités parce qu'on d'un ennemi à aller voir un autre ennemi.
Est-ce que vous avez été quand même bien accueillis parmi les populations kurdes irakiennes ?
Oui, bien sûr, mais je ne parle pas de population kurde irakienne. Mm-hmm. Après, la population kurde irakienne n'a pas le pouvoir, c'est le régime central, c'est Bagdad qui
mais en tant que réfugié, tu aurais pu par exemple aller rejoindre un village kurde irakien.
Oui, mais à l'époque Saddam Hussein ne reconnaissait pas l'identité kurde, donc
tout à fait, puisque c'est bien ce que j'allais préciser tout à l'heure, et je disais que c'était vraiment une période très noire pour le Kurdistan, puisque il y a eu cette période où vous en Iran vous avez été persécuté par le Shah d'Iran. Puis, suite à la révolution iranienne et qui a été récupérée par les islamistes et l'ayatollah Khomeini, vous avez été persécuté une deuxième fois. Et alors ensuite, pendant ce temps, juste après, il y a à cette époque-là, là c'était en 1988, donc très peu après, Saddam Hussein décide d'exterminer le peuple kurde d'Irak,
oui,
après avoir attaqué l'Iran.
Oui, bien sûr, il y a eu des gazages chimiques, ça, on en a parlé. Enfin, mondialement, c'est connu, cette histoire malheureuse. Oui, les Kurdes d'Irak, ils ont payé très cher à l'époque de Saddam Hussein. Entre 1987 et 88, ça a été horrible pour les Kurdes d'Irak. Il y a eu 182 000 personnes qui ont été enterrées vivantes par les bulldozers et l'artillerie de Saddam Hussein. Vivants, hein, des personnes âgées, des enfants, tous les gens qui ne pouvaient pas fuir, aller dans les montagnes, tout ça, ont été enterrés vivants. Et 182 000, sous l'ordre de Saddam Hussein, qui a lancé l'opération Anfal. Anfal, c'est un verset de Coran.
Donc là, encore une fois,
voilà, on
au
se
nom
sert
de la religion.
De la religion, pour massacrer des pauvres innocents. Donc, ensuite, bon, à l'Abja, il y a eu en quelques minutes 15 000 morts. On dit 5 000, mais il y a eu 15 000 morts. Et des milliers de personnes handicapées, même aujourd'hui. Des enfants qui naissent avec des handicaps lourds, avec des déformations. C'est horrible, quoi. Même les terres, ils sont plus cultivables depuis cette période-là. C'est une catastrophe naturelle aussi. Ensuite, pour revenir à l'histoire des mouvements, des révoltes kurdes, il y a eu, bien sûr, depuis 1920, depuis le traité de Sèvres, qui n'a pas été respecté, parce que le traité de Sèvres reconnaissait l'existence de problèmes kurdes
et l'Arménie aussi,
et prévoyait la création d'un État kurde. Donc,
ce qu'on appelait le Grand Kurdistan.
Dans un premier temps, il suggérait l'autonomie et par la suite la création d'un État kurde sur pas la totalité du Grand Kurdistan, mais au cœur du Kurdistan, dans la région de Diyarbakir, autour
qui
de
en Turquie.
Voilà, autour d'Erbil, aujourd'hui la capitale de Kurdistan autonome irakien. Cette région-là devait être autonome et par la suite créer un État kurde. Mais malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme ça. Comme d'habitude, on a servi de monnaie d'échange pour les grandes puissances. Et il y a eu, 3 ans après, il y a eu le traité de Lausanne qui a complètement effacé le traité de Sèvres. Donc, l'État, la République turque, dans ses formes actuelles, a été acceptée par les puissances qui ont démantelé l'Empire ottoman. Et donc, voilà où on en est. Par la suite, il y a eu des révoltes. Du côté de l'Iran, il y a eu la révolte de Simcoe en 1920, par là, ce qui a duré à peu près un an et qui commençait à avoir une grande importance, qui commençait à dominer pas mal la région. Il avait sur son contrôle la totalité du Kurdistan irakien. En ce moment-là, il y a eu des accords entre les soviétiques et l'Iran, et ils ont aidé les Iraniens à reconquérir le Kurdistan iranien par le Shah. Il y a eu du côté Kurdistan de Turquie, il y a eu la révolte de 1938, je pense, ou 36, je ne sais plus exactement la date, révolte de Sher Saïd, qui a lui aussi créé même une petite république kurde, côté Van. Là aussi, il y a eu la répression et ça a fini par la domination totale de la Turquie. Beaucoup de gens ont été massacrés de manière terrible. Il y a eu des chars qui écrasaient les villages, qui mettaient à feu et à sang toute cette région-là. Donc cette révolte-là a été étouffée. Par la suite, il y a eu, juste après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la création de la République de Mahabad, Kazi Mohammed, le chef des Kurdes de l'époque, a proclamé un État kurde au Kurdistan irakien, qui a duré un an à peu près. Là aussi, encore une fois, les soviétiques de Staline ont négocié des accords économiques importants avec l'Iran et la Turquie. Et donc, ils ont abandonné les Kurdes de nouveau. Le chef kurde, Kazi Mohammed, a été condamné à mort. Il a été pendu sur place publique avec d'autres chefs, d'autres collègues à lui. Voilà pour...
Là, c'est en Irak.
Ça, c'est en Iran.
En Iran.
Okay. En Iran. En Irak aussi, il y a eu beaucoup de mouvements, notamment en 1975. Les Kurdes irakiens, ils essayaient de mener leur combat de leur côté, et ils avaient mis sévèrement l'Irak en difficulté, le pouvoir de Bagdad à l'époque. Là aussi, parce que le Shah d'Iran aidait les Kurdes irakiens à l'époque. Le Shah d'Iran, il y a eu le traité d'Alger, je pense que c'était en Algérie, a vendu les Kurdes irakiens au régime irakien, donc, en échange d'un morceau de territoire qui est entre l'Iran et l'Irak, qui s'appelle Châtel Arabe. Donc,
c'est en quelle année, ça
75.
Ah, oui.
Donc, l'Irak a donné ce territoire à l'Iran en échange que l'Iran lâche les Kurdes irakiens.
Mmh. Oui, d'accord, c'est très intéressant.
Ensuite, il y a eu la révolution de l'Iran en 1979 et la suite, ce que je disais tout à l'heure.
Après, on reprend avec ce qu'on a dit tout à l'heure, le Shah part et une autre...
Voilà, et les Kurdes se font massacrer de nouveau.
Voilà.
Voilà. Donc, nous, on avait à l'époque, pendant à peu près 2 ans, géré pas mal de régions kurdes. On avait fait des réformes agraires et on avait réouvert les écoles, tout ça, en langue kurde. Et donc, nous n'avons pas proclamé l'indépendance parce que c'est très difficile de proclamer aujourd'hui l'indépendance du Kurdistan par rapport à ce qui est proposé.
C'est une entité étatique qui, en tant qu'État, n'est pas reconnue. Et voilà. Qui n'est pas créé, qui n'existe pas encore sur le plan de la construction d'un État. Mais par contre, c'est un peuple et un territoire.
Oui, c'est un peuple.
Les composantes essentielles sont présentes.
Voilà, c'est le plus grand peuple au monde sans État.
Mm-hmm.
Nous, les Kurdes eux-mêmes ne pouvons pas proclamer un État kurde. C'est trop risqué pour nous. On a quatre pays avec des régimes totalitaires, on a ces quatre régimes sur le dos. Si un État, un endroit de Kurdistan, une région kurde, par exemple le Kurdistan irakien aujourd'hui qui a une quasi-indépendance, proclame son indépendance, il serait sous le feu de l'Iran, de la Turquie, de l'Irak, etc. Donc ça, c'est très difficile pour nous. Souvent, on nous fait des reproches. On dit, les peuples kurdes, oui, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent. Une fois, c'est l'autonomie, une fois, c'est l'indépendance, une fois, c'est rien du tout. Mais ça ne se passe pas comme ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Si on avait affaire qu'à un seul État, là, oui. Les choses, oui, seraient différentes.
Mais là, je rappelle de quels États totalitaires il s'agit et des personnes qui les dirigent. Vous avez la Syrie avec Bachar el-Assad, l'Irak avec autrefois Saddam Hussein et aujourd'hui...
Erdogan de Turquie.
Erdogan de Turquie. Donc ce que je voulais dire, Saddam Hussein est parti, mais en Irak, la situation politique, sur le plan politique, on ne peut pas dire qu'on ait affaire non plus à des... des enfants de cœur non plus.
Non, non, parce qu'il y a l'Iran qui gère les affaires politiques et militaires de l'Irak.
Voilà,
c'est le régime fasciste de, islamiste d'Iran qui gère l'Irak et la Syrie.
Par un brutal retour des choses, on va dire. Erdogan en Turquie et puis Ali Khamenei, bien entendu, en Iran.
Nous, notre seul espoir, c'est la communauté internationale. C'est l'ONU. Mais bon, l'ONU est une organisation, malheureusement, à la sorte des grandes puissances.
Comment ça se passe en tant que représentation à l'ONU? Est-ce que vous avez des sièges? Parce que, par exemple, je regarde le Congrès mondial Amazir, qui est une association de revendication de la culture berbérophone, donc Amazir, sur toute l'Afrique du Nord. Donc c'est une association qui n'a pas une vocation à la reconnaissance d'un État en particulier, ni à défendre les intérêts d'un État, mais celle d'un peuple, c'est-à-dire la diaspora berbère, Amazir, en Afrique du Nord, aux îles Canaries, ou ailleurs, immigrés d'un peu partout, et pourquoi pas au Kurdistan. Et ce congrès mondial Amazir a des sièges à l'ONU pour se faire reconnaître.
Nous, à ma connaissance, non, on n'a pas de siège.
Est-ce qu'une organisation du type Congrès mondial Amazir qui fédérerait des Kurdes venus des quatre pays serait envisageable? Est-ce que ce serait possible, malgré les dissensions qu'il peut y avoir entre les différentes parties?
Après, le dossier kurde existe à l'ONU.
Oui.
L'ONU, enfin, la communauté internationale.
Mais en tant que telle, est-ce que vous disposez d'une organisation?
On connaît le problème kurde. Le dossier kurde existe, mais seulement il n'y a pas de volonté de traiter ce problème parce qu'il y a trop d'intérêts économiques en jeu.
Oui, à cause des gisements pétrolifères.
À cause du pétrole, du gaz, à cause de l'eau.
De l'eau,
on n'en parle pas. Mais le Kurdistan, c'est le château d'eau de Moyen-Orient. Donc,
oui, tout à fait. C'est l'Euphrate, c'est ça qui.
C'est le Tigre et l'Euphrate qui prennent source au Kurdistan. Au Kurdistan, exactement, turc, au Kurdistan nord, qui traverse le Kurdistan et la Syrie, l'Irak, etc. Une époque, l'Israël a acheté l'eau potable. Il y a un viaduc pour l'eau potable qui passe de la Turquie à l'Israël. La Turquie vend l'eau kurde à l'Israël, en échange des armements sophistiqués pour combattre la guérilla kurde.
Donc en fait, vaut trop l'eau des Kurdes de Turquie, leur retombe dessus.
Notre richesse, c'est notre malheur.
Ouais.
Après, il y a d'autres richesses, bien sûr, la richesse archéologique, mais ça...
Sur le plan des vestiges archéologiques, est-ce que tout a été découvert encore
ou Non, pas tout. Il y a pas mal de choses ont été découvertes, mais à chaque fois... On ne dit pas que c'est des Kurdes, c'est des Mèdes, on dit c'est des Perses, c'est des Turcs, et pourtant, si on prend la population turque, les Turcs, ils viennent de l'Asie centrale, c'est de la Mongolie, Kazakhstan, tout ça. Ils sont venus au 13e, 14e, 15e siècle. Alors que le peuple kurde est sur place, a vécu là-bas de manière standardisée, sédentarisée depuis des milliers d'années.
Donc,
on n'a pas des droits, mais les autres peuples qui sont venus récemment ont des droits. Où il est la justice?
Oui, bien sûr, ça paraît complètement contradictoire, surtout quand on sait que pour que un État fonctionne bien et pour que les gens soient et pour que un régime politique soit équilibré, il faut tenir compte de l'histoire du territoire et des peuples qui vivent dessus. Si on occulte une grande partie, c'est pas 12 000 ans, c'est pas rien, de l'histoire du Moyen-Orient, comment voulez-vous qu'il y ait la paix au Moyen-Orient? Ce n'est pas possible.
Et oui, nous, on a côtoyé les Babyloniens, les Assyriens, etc. Malheureusement, aujourd'hui, ces peuples-là aussi, ils sont sur la voie de
l'extinction, de l'étouffement.
Par exemple, les Assyriens, ils resteraient environ une centaine de milliers de personnes dans cette région. Parce qu'ils ont été massacrés, comme les Yézidis. Enfin, les Yézidis, ce n'est pas une minorité ethnique, c'est une minorité religieuse. C'est des Kurdes, les Yézidis, qui ont été massacrés par l'islam, parce qu'ils sont considérés comme une hérésie, comme une religion de diable. Et l'islam au 7e siècle, comme aujourd'hui, Daesh coupait les têtes, ils prenaient des yazidis, ils leur coupaient la tête pour faire peur aux autres. Ils disaient, si vous ne vous convertissez pas à l'islam, c'est ce qui va vous arriver. Donc il y a beaucoup de Kurdes, ils sont convertis par peur à l'islam, comme d'autres peuples. Maintenant, aujourd'hui, il reste une toute petite minorité, à peu près de moins d'un million de Kurdes qui pratiquent encore le yézidisme. Mais le on dit yézidi et les Kurdes. Ça, pour moi, c'est une faute. Les yézidis, c'est des Kurdes.
Oui, les yézidis, ce serait juste une petite frange des Kurdes, certains Kurdes qui revendiquaient une certaine religion.
Qui revendiquent encore le yézidisme.
Voilà, et encore aujourd'hui.
Encore aujourd'hui. Mais bien sûr, après, comme la plupart des peuples de cette région-là, ils ont modifié leur religion. Et maintenant, depuis quelques siècles, il y a un nouveau yézidisme qui est réinventé pour qu'il soit accepté par la dominance islamique. Comme les Alawites. Les Alawites, pareil, c'est toujours des minorités qui essaient d'inventer des religions qui correspondent un peu à l'islam pour exister, pour pouvoir exister.
Oui, c'est-à-dire qu'ils essayent de se démarquer du reste de l'islam.
Oui, tout en reconnaissance des Alawites,
ce sont des Syriens, les Alawites.
Les Alawites, il y en a en Syrie, il y en a dans tout le Kurdistan, que ce soit en Turquie ou en Iran ou en Irak.
D'accord.
Comme les Yézidis.
C'est un peuple des montagnes, comme les Kurdes d'Iran.
Oui, c'est des Kurdes, c'est des Kurdes, bien sûr.
Oui. Oui.
Mais tout ça, c'est des tentations de pouvoir se faire accepter par l'islam dominatrice.
Qui annihile toute velléité d'autonomie, de créativité, finalement.
Voilà, mais bon, si on regarde un peu plus large, les chrétiens d'Orient ou d'autres minorités religieuses, leur existence, c'est un miracle, c'est avec l'impôt, parce qu'il faut qu'ils paient un impôt, ça s'appelle le hijir, je ne sais pas, en arabe. Et il faut qu'il paye cet impôt-là pour pouvoir vivre comme les autres, à peu près. Mais après, discrimination dans ces sociétés-là. Si on n'est pas dans les parties dominées par les sunnites, si on n'est pas sunnite, on a du mal à accès à des grandes écoles, à avoir certaines responsabilités, et ainsi de suite dans d'autres régions dominées par les chiites, etc.
Tout à fait. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de laïcité vers la fin, mais là je pense qu'on va se faire une petite pause musicale. Voilà, encore une fois, une chanson de Siwan Akol, ce fameux chanteur kurde d'origine turque dont je parlais tout à l'heure. On aurait pu mettre aussi un chanteur kurde iranien. Une autre fois, on en fera d'autres, des émissions. Et celle-ci, le titre de cette chanson-là, c'est Diyarbakir, donc le fameux nom de cette ville kurde de Turquie, qui est, comme tu me le disais tout à l'heure, bombardée et complètement détruite par le régime turc actuel, sans qu'on n'en sache rien.
Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Malheureusement, c'est alors, horrible, oui.
Tout à fait. Tout à l'heure, tu nous parlais de religion et on était en train de dire que chez les Kurdes qui prônent le confédéralisme, quel que soit le groupement kurde, hein, que ce soit au sein du PKK d'Abdullah Öcalan ou au sein d'autres factions politiques, comme par exemple cette fameuse faction politique à laquelle tu faisais partie déjà quand elle a été créée dans les années 80, qui s'appelle le Komala. Il y a, et puis aussi en Syrie, au sein du projet Rojava à Kobané, qui est très actif actuellement, il y a des valeurs qui sont prônées, celles par exemple du confédéralisme, et puis celles de la laïcité, on est d'accord?
Oui, bien sûr. Je veux pas faire le chemin, le peuple kurde a été toujours ouvert à d'autres croyances, à d'autres façons de voir des choses, à d'autres peuples. Il n'y a pas d'intégristes dans la population kurde. Il n'y a pas de. Il y a une pratique religieuse un peu par la force des choses.
Une affaire, une question d'affaires personnelles, la religion.
Voilà, exactement.
Et qui n'est pas publique.
Exactement. Et sinon, aujourd'hui, il y a, par exemple, si on prend le Kurdistan irakien qui a depuis une vingtaine d'années l'autonomie et qui a, il y a un pouvoir, il y a une armée, il y a des institutions, il y a des écoles. C'est un parlement où il y a des femmes qui sont représentées de manière équitable. Il y a autant de femmes que d'hommes.
Voilà, l'égalité entre les hommes et les femmes est aussi un principe qui est très important, la lutte, que ce soit chez les Kurdes.
Bien sûr, la lutte des femmes a toujours existé, a toujours eu des militantes parmi les mouvements politiques kurdes depuis 19e siècle, même peut-être avant. Au-delà, je ne connais pas. Mais la femme kurde a toujours eu un rôle à jouer. Et donc, oui, la laïcité, c'est quelque chose de très important pour nous, pour les, voilà. Déjà pour le mouvement politique, tous les mouvements politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, la question de laïcité, c'est quelque chose, un point important.
Qu'est-ce que tu penses du projet Rojava ?
Le projet Rojava,
je rappelle c'est en Syrie.
Je suis fier que le programme, donc nous on a appliqué, le Parti Komala a appliqué dans les années 80,
justement avec ses valeurs.
La démocratie à l'époque, nous on l'appelait la démocratie directe et le confédéralisme démocratique. Donc ce qu'on revendiquait dans les années 80,
avec
ce
les
qu'on
idées
avait
de liberté
proposé,
pour tous,
voilà,
pour les femmes.
Ce qu'on avait proposé au pouvoir en Iran, c'était la base de notre revendication, l'autonomie. Mm-hmm. Avec un confédéralisme démocratique dans la région, en Iran, enfin à l'époque. Maintenant, ce thème est repris, cette façon de voir des choses est repris par le PKK ou par d'autres partis politiques kurdes. Nous sommes fiers.
Oui, tout à fait. Et par contre, ne pas confondre, attention, le PKK, c'est plutôt en Turquie. Et le projet Rojava avec la ville avec Kobané en Syrie. Hein.
Oui, en Syrie, c'est bon, les Kurdes syriens, ils ont leur parti politique. Il y en a plusieurs. Donc c'est lui qui domine actuellement. C'est les PYG, et PSG et le PIAD.
D'accord.
J'invite
tous nos auditeurs à aller voir sur Internet. J'ai une dernière petite question à te poser avant que ça se termine, parce que malheureusement, les meilleures choses ont une fin et notre émission ne dure malheureusement qu'une heure. J'aimerais bien avoir plus, mais bon, c'est pas évident. Il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer. Alors, juste
une
petite question.
Bien sûr, il faut donner la parole à tout le monde.
Quand on regarde bien, finalement, les quatre parties du Kurde, des quatre différents pays qu'on a cités, la Syrie, l'Iran, l'Irak et la Turquie, finalement, on remarque que vous avez quand même une base, un tronc commun d'idées et de valeurs. Et c'est là que je te pose ma question. Si un jour, le projet d'un grand Rojava, avec votre drapeau qui porte un soleil, en souvenir de l'ancienne époque où il y avait le dieu soleil, est représenté, s'il y avait ce grand État kurde, ce grand Kurdistan dont on parle depuis le traité de Sèvres, qu'est-ce que tu prônerais, toi, comme type d'organisation ?
Type d'organisation étatique, tu veux dire ?
Oui, juste un confédéralisme démocratique. Système.
Oui, pourquoi pas, mais ça, ça va, c'est un peu utopique.
Oui.
Mais oui, ce serait la solution pour le Moyen-Orient, pour toute
Sans
la région.
Sans rompre avec les États
préexistants.
Ce
serait la meilleure solution. Mais pour accepter ça, il faut d'abord éduquer les gens. Il
ce
faut
serait
d'abord
fait.
Éduquer les peuples.
Est-ce que tu penses que mettre en avant...
Malheureusement, il y a la dominance religieuse, le conservatisme. Mm-hmm. On est loin de comprendre
Mais pas chez
idée-là.
Les Kurdes, ça.
Mais chez les Kurdes aussi.
Chez les Kurdes aussi,
la totalité des
aussi.
Kurdes ne comprennent pas ça, malheureusement. Sinon, il y a longtemps, tous les peuples, tous les Kurdes seraient mis dans
la
rue.
Mais est-ce que tu penses que ce serait possible de créer un grand Kurdistan qui ne romprait pas avec les États préexistants, mais avec une forme de souveraineté transversale supplémentaire ?
Mais ça, on le propose.
Voilà.
Depuis longtemps, on propose ça. Mais personne ne nous prend en sérieux. Et à chaque fois, on nous répond.
Ça ferait des États à deux niveaux.
Avec des armes, on nous répond.
D'accord, voilà. Ok.
Non, ça, je pense...
Mais l'idée pourrait être bonne. Hein,
Très bonne idée. Moi, j'ai milité pour, j'ai donné ma jeunesse, j'étais dans la guerre, j'étais en prison, j'ai souffert. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas duper les gens. Tant qu'il n'y a pas une grande puissance, maintenant, on ne va pas aller réveiller Lénine et communistes.
Voilà, tout à fait.
Karl Marx et tout. C'est des bonnes idées, mais ça, c'est les projets internationalistes. Moi, nous, les Kurdes, ce qu'on a besoin, c'est que des grandes puissances, la communauté internationale, nous soutient dans notre démarche.
Et vous reconnaissent,
parce
notamment
que
nous
avons
des
réclamations, voilà. Des demandes légitimes.
Tout à fait, notamment au sein des grandes instances internationales comme l'ONU.
Voilà.
Donc on va être obligé, désolé, de terminer là-dessus, en espérant fort qu'un jour vous aurez des sièges à l'Organisation des Nations Unies.
Merci beaucoup pour votre invitation.
C'est moi qui te remercie.
C'était un plaisir pour moi. Merci.
Au revoir à tous les auditeurs et à la prochaine émission.